autour de la question. Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
En quoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver avec Charles Pélabon à la réalisation pour nous interroger sur une autre forme d'humanité. Les Néandertaliens, disparus voilà plus de 30 000 ans. En quoi ces hommes préhistoriques étaient-ils anatomiquement différents de nous? Comment vivaient-ils? Dans quel environnement? Et pourquoi ont-ils disparu? Ces descendants des premiers groupes humains ont alimenté bien des fantasmes. De la bête sauvage à l'homme, Néandertal, l'Européen, une exposition retrace l'évolution des connaissances sur cette autre forme d'humanité à la fois si proche et si lointaine que nous allons tenter d'approcher avec nos invités, l'archéologue Pascal Depape, spécialiste de Néandertal, et Jean-Luc Rieux, attaché de conservation chargé des publics au musée de préhistoire d'Île-de-France, autour de la question « Que savons-nous de Néandertal ?» Bienvenue. Bonjour Pascal Depape.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes archéologue, docteur en préhistoire, spécialiste de Néandertal, auteur aux éditions La Découverte de la France du Paléolithique. Vous êtes aujourd'hui directeur interrégional pour le Nord et la Picardie de l'INRAP, l'Institut National d'Archéologie Préventive. On peut dire, Pascal Depape, que depuis que vous avez commencé à étudier ces hommes de Néandertal, tout a changé. L'accumulation des découvertes archéologiques d'une part et les outils de la paléogénétique d'autre part ont révolutionné à la fois nos connaissances, c'est toutes nos idées reçues.
Oui, tout à fait. Ce sont deux évolutions majeures dans la discipline archéologique, et surtout pour la préhistoire ancienne, le paléolithique, petit moyen dont j'essaie de m'occuper. Par rapport à mes études des années 80, les connaissances que nous avons aujourd'hui sur l'homme de Néandertal ont été décuplées, peut-être même multipliées par 100, par rapport à ce que nous savions à l'époque. Il y a deux phénomènes majeurs pour expliquer cette évolution radicale. Le premier, qui est le plus ancien des deux, qui se développe à partir des années 90, ce sont la multiplication des fouilles, et surtout des fouilles préventives, qui nous ont permis d'atteindre à la fois des sites enfouis profondément, comme dans le nord de la France, ou en Belgique, ou d'autres régions, parfois à 6, 7, 10 mètres de profondeur, et également qui nous ont permis de fouiller des sites sur des très grandes surfaces, alors que nous étions limités, soit par des sites en grotte qui ont donc des parois et donc une superficie limitée, soit par des moyens qui ne nous permettaient pas de fouiller de manière très large. La deuxième révolution, c'est la paléogénétique, effectivement. Elle est un peu plus récente, mais elle s'accélère terriblement dans la mesure où les outils utilisés, les séquenceurs, sont de plus en plus performants et nous permettent d'avoir des informations extrêmement importantes vis-à-vis de l'ADN que nous retrouvons parfois, rarement, mais parfois dans certains ossements d'espèces fossiles.
Jean-Luc Rieux, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes attaché de conservation du patrimoine au musée de préhistoire d'Île-de-France à Nemours. Vous présentez donc l'exposition Néandertal européen, de la bête à l'homme, j'ai envie de dire. C'est cette révolution des connaissances, mais aussi de la représentation qu'on s'est faite de cet homme préhistorique que vous voulez faire partager aux visiteurs.
Oui, tout à fait. On profite de cette exposition qui a été conçue en 2010 par le service de patrimoine de la Wallonie.
En Belgique,
tout à fait. Pour faire le point des connaissances par rapport à notre région, l'Île-de-France, et puis aussi au niveau du sud-ouest de la France. Comme le disait Pascal Depape, c'est aussi une région qui a livré énormément de découvertes récentes liées aux grands travaux d'urbanisme. Et l'idée était effectivement de s'interroger sur cet homme de Néandertal et sur ses représentations, effectivement, entre les premières découvertes fin 19e et la façon dont on le représentait à l'époque.
Comme une bête sauvage.
Complètement, tout à fait, très simiesque dans son apparence.
Épaisse, oui.
Voilà, et puis donc les nouvelles représentations, et notamment les travaux d'Elisabeth Dainès.
Ah oui, fantastique, reconstruction, grandeur nature, on y viendra. Autour de la question, que savons-nous de Néandertal? Première piste de réflexion sonore sur les traces de cette autre forme d'humanité que nous allons découvrir ensemble avec le mix paléo-acoustique de Charles Pélabon.
C'est une des espèces humaines qui s'est le mieux adaptée. Pendant 250 000 ans, elle a dominé l'Europe.
Est-il indiscret de vous demander qui c'était?
Il est plus petit que nous. Le menton est pas très proéminent.
Réponse 1, l'homme d'Emmental.
Il est tout poilu, les cheveux emmêlés.
Réponse 2, l'homme de Chantal.
Ses membres sont sensiblement plus courts.
La grotte constitue le centre de leur univers.
Réponse 3, l'homme de Néandertal.
Ah oui, c'est ça, c'est lui. Aujourd'hui, il ne reste qu'une seule espèce d'homme, Homo sapiens, partout sur la Terre.
L'homme moderne est très proche de Néandertal.
A-t-il ou non fricoté avec sapiens? Et oui, puisque nous avons quelques gènes.
Entre 1 et 4%. Comme je dis en plaisantant, c'est pas un viol dans un coin. Hein. C'est vraiment un groupe, c'est des populations. Ça met en lumière qu'à un moment donné de notre histoire, il y a eu un croisement.
Pendant très longtemps, on a considéré l'homme de Néandertal comme inférieur aux hommes modernes.
Et on avait tendance à bestialiser l'homme de Néandertal. C'est la représentation traditionnelle de l'homme préhistorique, plein de poils avec sa massue.
Et on se rend compte que petit à petit, au cours du temps, on va donner une image un peu plus humaine à cet homme-là jusqu'à donc, ses dernières reconstitutions.
On a découvert récemment un coquillage dont on pense qu'il a été dessiné par Néandertal. Donc ce pauvre Néandertal, on a cru qu'il était balourd. En fait, il savait faire plein de choses.
Néandertal, c'est l'espèce qui a été la plus proche de nous dans toute l'histoire de la vie. Alors sa disparition, évidemment, rend cela encore plus énigmatique.
Vous êtes libre. Votre avocat est parvenu à prouver que votre action commando alter darwiniste n'était pas incompatible avec l'article 213 du code Néandertal.
Fais-moi signe en cas d'évolution conditionnelle.
T'inquiète, mon pote. Rendez-vous dans trois glaciations.
Vous avez peut-être reconnu l'humour de la série Silex and the City ou encore la préhistorienne Marie-Hélène Patoumatis qui veut réagir à ce que l'on vient d'entendre. Pascal Depape.
Oui, Silex and the City, oui, il faut absolument écouter ou lire cette bande dessinée. C'est inspiré d'une bande dessinée de Jules, donc je profite pour faire un peu sa publicité.
C'est tout à Jules, fait... et c'est aussi diffusé sur la chaîne Arte.
Exactement, c'est tout à fait intéressant. Par rapport à la vision que nous avons eu de l'homme de Néandertal, je crois qu'il faut absolument la mettre en parallèle avec la vision de notre propre humanité à nous. C'est une espèce de miroir, Néandertal, par rapport à nous.
Alors justement, entre la question, que savons-nous de Néandertal? Qui était-il? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Vous dites, c'est le miroir de notre humanité. Il a été découvert à une période particulière de notre histoire, c'est en 1865 qu'il a été identifié dans la vallée de Néander.
Voilà, la vallée de Néander. Alors, la vallée de Néander, ça, c'est pas vraiment allemand comme nom, même si ça se trouve près de Düsseldorf. Simplement, un pasteur au XVIIe siècle, qui s'appelait Neumann, l'homme nouveau, avait décidé de se lancer dans la poésie et avait décidé de gréciser, de rendre grec son nom, de Neumann en Néander.
Et du coup, ça veut dire la vallée de l'homme nouveau.
Et ça veut dire la vallée du pasteur Néander, maintenant la vallée de l'homme nouveau. C'est là qu'on a découvert ce Néandertalien. C'est assez intéressant d'ailleurs comme image et comme coïncidence historique. Alors, quand il a été découvert, Néandertal, ce n'est pas le premier qui a été découvert, mais c'est le premier qui a été identifié comme étant une autre espèce humaine. C'est ça qui est important. Il a tout de suite été considéré par la plupart des archéologues de l'époque, des paléontologues, mais aussi de l'Église, etc., comme étant une espèce de chaînon manquant, de sous-humanité, d'un intermédiaire entre l'homme et le singe. Nous étant évidemment le sommet de la perfection ultime, la perfection de la création.
Donc miroir de notre humanité à l'époque, hein ?
Une forme de miroir, mais déformé et non déformant de notre humanité de l'époque.
Aujourd'hui, Néandertal, on sait plus de choses. C'est le premier groupe humain qui soit sorti d'Afrique. C'est comme ça qu'on peut dire à quoi ? Il y a environ 300 000 ans ?
Non, Néandertal n'est pas sorti d'Afrique. Néandertal est une espèce typiquement européenne. C'est notre ancêtre commun à Néandertal et à nous, Sapiens, qui est sorti d'Afrique, mais il y a très longtemps, vu qu'on a des premiers hominidés, enfin des hominines plus précisément, dans le sud de l'Europe, vers 1,4 à 1,5 million déjà. Et il y a une évolution locale, européenne, d'une espèce qui devient Homo heidelbergensis, donc pardon pour ces termes barbares, mais ce sont les termes officiel, et qui devient par la suite Homo Neanderthalensis, l'homme de Néandertal.
Et donc à ce moment-là, en Europe, quoi, il y a environ 300 000 ans, c'est la seule espèce humaine.
C'est-à-dire que, oui, il y a environ 300 000 ans, Néandertal apparaît avec les caractères qu'on a découverts sur ces différents squelettes. On a environ 300 spécimens de Néandertaliens, plus ou moins bien conservés, évidemment. Et ce Néandertalien est issu de ce Homo heidelbergensis qui a commencé à s'écarter de l'autre lignée, celle qui a abouti à nous dans les années 500 000, 600 000, quelque part par là. L'Europe est un cul-de-sac. Il faut regarder une carte du monde. On l'a longtemps oublié par européocentrisme, mais l'Europe est un véritable cul-de-sac. C'est la péninsule de l'Eurasie. Et ça peut très vite être bloqué par des phénomènes glaciaires entre les glaciers au nord, les Carpates, voire l'Oural à l'est. Et donc, c'est un endroit clos, quasiment clos, où des espèces, par divergence génétique, évoluent seules.
Et Néandertal a connu, vous parlez de glaciation, des périodes de glaciation, en tout cas des climats extrêmement variés.
Néandertal a connu quasiment tous les climats. Il y a plusieurs glaciations qui se sont succédées pendant la durée de vie des Néandertaliens, donc environ 300 000 ans. Certaines de ces glaciations ont été très sévères. La dernière, une glaciation, c'est un cycle de 80 à 100 000 ans environ, mais qui n'est pas linéaire, ce n'est pas continu. C'est entrecoupé de phases de réchauffement plus ou moins fort, plus ou moins bref, plus ou moins long. Et la dernière glaciation, par rapport à une moyenne des températures actuelles en région parisienne, disons de 10 degrés, la dernière glaciation, on a eu des descentes de température en moyenne annuelle jusqu'à moins 4, moins 6 degrés, pour vous donner une idée du climat qu'il a pu rencontrer par moment.
Et Néandertal s'est acclimaté à tous les climats autour de la question que savons-nous de Néandertal et comment nos connaissances et nos représentations ont-elles évolué. On va revenir sur l'image des années 1970 avec Néandertal Man que vous nous avez signalé, des Hot Legs, version d'un autre groupe des années 70. This the love story. Version années 70 des Hot Legs sur RFI, repris par le groupe The Love Story autour de la question que savons-nous de Néandertal et de sa Love Story précisément avec Homo Sapiens. Petit rappel des faits par le préhistorien et archéologue Jean-Paul Demoule.
L'homme de Néandertal, c'est avant l'Homo Sapiens, c'est les descendants des premiers humains qui arrivent sur le sol français il y a plus d'un million d'années et qui continuent à évoluer sur place. Et puis il y a 30-40 000 ans, une nouvelle espèce humaine, les Homo Sapiens comme vous et moi, sortent à leur tour d'Afrique et vont se mélanger un peu partout en Europe, en Asie, avec justement les descendants des premiers arrivants des Homo erectus, donc avec les hommes de Néandertal. Et pendant longtemps, on a bien veillé à dire qu'il n'y avait eu aucun mélange et on avait tendance à bestialiser l'homme de Néandertal. C'est la représentation traditionnelle de l'homme préhistorique, plein de poils avec sa massue, etc. Plus on en a avancé, plus on s'est aperçu qu'en fait il était très proche de nous, même capacité crânienne, etc. Et puis en mai 2010, enfin, il y a eu le résultat spectaculaire, c'est que à partir du moment où on a pu reconstituer le génome de Néandertal, de voir que on avait tous, du moins les Européens et les Asiatiques, une partie de gènes qui viennent de l'homme de Néandertal. Donc il y a eu toutes sortes d'histoires d'amour entre les Homo sapiens et les hommes de Néandertal, mais les Homo sapiens c'était visible beaucoup plus nombreux et les hommes de Néandertal se sont noyés dans la masse. Mais il en reste quelque chose entre chacune et chacun de nous.
Nous avons tous ou presque quelque chose de Néandertal en nous, sauf que l'histoire est quand même un peu plus complexe que cela.
Oui, l'histoire est assez complexe, évidemment, comme toujours. D'ailleurs, l'histoire est toujours complexe. L'histoire n'aime pas la simplicité. On pense, dans l'état actuel de nos connaissances, que Néandertal et Sapiens auraient fricoté, si je puis me permettre l'expression, quelque part entre 50 000 et 60 000, 70 000 peut-être, dans la région du Proche-Orient, quelque part dans la région actuelle de la Palestine, d'Israël, dans ce secteur-là.
Qu'est-ce qui fait penser cela?
Alors, ce qui fait penser cela, c'est tout un faisceau d'indices, de présomptions. Je vais essayer de les faire dans l'ordre. Tout d'abord, nous avons déjà des squelettes de sapiens dont l'ADN, dans les années 45 000, dont l'ADN a déjà des traces de génome néandertalien. Donc c'est forcément avant, par définition. Deuxièmement, nous avons constaté également que le génome néandertalien, les 2 à 3, peut-être 4 % que nous avons chacun en nous, est un génome non codant déjà, il faut le savoir, donc qui influence pas ou très très peu notre apparence, notre façon.
Voilà pourquoi nous n'avons pas la même morphologie que les Néandertaliens.
Mais ces traces ne se trouvent que chez les Européens et les Asiatiques.
Donc,
et pas du tout chez les populations africaines, autochtones. Parce qu'on pense que les hommes étant sortis d'Afrique ont dû rencontrer les Néandertaliens, les Sapiens quittant l'Afrique, remontant par le Proche-Orient vers le nord, ont dû rencontrer les Néandertaliens au Proche-Orient, se sont métissés, pour un certain nombre d'entre eux, avec les Néandertaliens au Proche-Orient, mais n'ont pas fait marche arrière. Ils ont continué leur route vers l'Asie d'un côté, vers l'Europe de l'autre côté, mais ils n'auraient pas, a priori, fait marche arrière, donc ils ne seraient pas retournés en Afrique, ce qui expliquerait pourquoi nos Africains, nos collègues africains, nos frères africains n'ont pas de gènes néandertaliens en eux.
Alors, autre surprise aussi, donc ça s'est passé au Proche-Orient, vous l'avez dit, et en même temps c'est une surprise parce que très longtemps on a cru que ces espèces donc différentes, c'est des espèces différentes d'hommes, n'étaient pas interfécondes, ne pouvaient pas être interfécondes, ce sont des espèces différentes.
Oui, enfin le terme d'espèce, il est maintenant bien écarté, on parle plus trop d'espèces, c'est un peu compliqué. Ça démontre surtout à quel point la famille humaine est complexe, même si elle est unie, elle est complexe malgré tout, les histoires sont complexes. Les espèces n'existent plus, en tout cas dans l'esprit des paléontologues et des préhistoriens, on ne parle plus d'espèces, on parle de l'humanité au sens large. Ça montre également à quel point toute cette évolution technique, grâce à la paléogénétique, est venue balayer tout un ensemble de concepts que nous avions par rapport à cela. Certains pensaient, ce qui a toujours eu débat là-dessus, qu'il y avait interfécondité, et il y avait un squelette au Portugal qui pouvait présenter peut-être quelques caractères néandertaliens chez un homme qui était vraiment un sapiens. Mais en général, on pensait qu'il n'y avait pas fécondité possible, pas interfécondité possible, ou que s'il y avait, c'était un peu comme les mulets, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de descendance possible. Il faut reconnaître que derrière ça, il y avait quand même aussi des problèmes, au-delà des aspects strictement scientifiques, des problèmes déontologiques, mais surtout des problèmes éthiques, peut-être même théologiques. Parmi les plus grands partisans de la non-fécondité possible entre les deux, c'était des archéologues d'université méthodiste qui ne voulaient pas entendre parler d'une possibilité d'avoir une autre humanité féconde avec la nôtre.
D'où le fait que cette autre humanité, hein, les Néandertaliens, soit représentée, on va y revenir dans cette exposition néandertal européen, au départ comme très très proche du singe.
Tout à fait, on voulait complètement se démarquer d'eux en fait. Certains chercheurs les avaient appelés les Homo stupidus, pour vraiment bien marquer la différence entre Homo sapiens et cette autre humanité.
Donc c'est vraiment aujourd'hui une révolution, un bouleversement des connaissances, mais est-ce qu'aujourd'hui encore on applique peut-être des imaginaires, des présomptions, des préjugés qui sont les nôtres et qui ne sont pas vrais?
Bien, tout à fait, ça, on a beaucoup de mal malheureusement à s'extrapoler de notre condition et de ce qu'on est, de notre condition actuelle. Et l'image qu'on en donne et l'image qu'on donne aujourd'hui au début du 21e siècle, il est probable que cette image elle va continuer à évoluer et à changer. Là dernièrement, on a découvert en Italie des os de vautour découpés par Néandertal. La supposition a été qu'il récupérait des plumes. Et donc il y a une reconstitution qui est actuellement au musée de Burgos d'un néandertalien portant des plumes de vautour dans les cheveux.
Une toute autre image que celle du néandertalien hirsute et brute et épaisse. Autour de la question que savons-nous de Néandertal, nous continuons de revenir sur pas mal d'idées reçues en découvrant cette autre forme d'humanité. Suite dans 3 minutes, juste après le flash d'info sur les traces de Néandertal. A tout de suite.
Suivez la Coupe d'Afrique des...
Autour de la question.
Caroline Lachowski.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette deuxième partie autour de la question « Que savons-nous de Néandertal entre fantasmes et réalité ?» des plus récentes fouilles archéologiques et des nouvelles données paléogénétiques sur les traces d'une autre humanité avec nos invités. L'archéologue Pascal Depape, spécialiste de Néandertal, et Jean-Luc Rieux du musée de préhistoire d'Île-de-France à Nemours qui présente l'exposition « Néandertal, l'Européen ».
Je pense que si un Néandertalien rentrait dans le studio, vous sortiriez probablement. Je pense que, évidemment, il est proche de nous quand on prend comme élément de comparaison un Australopithèque ou un chimpanzé. Mais cela étant dit, l'idée que les Néandertaliens sont des hommes modernes qui n'ont pas eu de chance parce qu'ils sont nés 60 000 ans avant l'invention de l'iPhone, je crois que ça, c'est une idée très très fausse. Alors, c'est une idée qui est à la mode, mais c'est une idée assez fausse.
Le paléanthropologue Jean-Jacques Hublin de l'Institut Max Planck de Leipzig, professeur titulaire de la chaire Histoire du genre homo au Collège de France, nous met en garde à sa manière, contre un revirement excessif. Si Néandertal n'est pas une bête sauvage, ni une brute épaisse comme on l'a longtemps cru et représenté, il n'est pas non plus un homme comme nous.
Non, tout à fait. En tout cas, au niveau de son squelette, déjà, quand on le regarde de près...
Il
est assez petit, 1m60, 65, trapu. Il a des os massifs, des attaches musculaires importantes. C'est surtout son visage qui nous trouble, parce qu'il a des pommettes assez saillantes, des bourrelets au-dessus des yeux, les bourrelets susorbitaires très prononcés, avec un front très fuyant. Et quelque chose aussi un peu étonnant à l'arrière, c'est un chignon occipital qui fait que le crâne est étiré vers l'arrière. Et l'absence de menton lui fait aussi une face légèrement un peu prognate, avancée.
Donc il ferait peur quand même, comme le disait Jacques Hublin, s'il rentrait dans ce studio, Pascal Depape, il nous ferait peur.
Il nous ferait peur, je ne sais pas, comme on se le disait tout à l'heure, pour le moment je pense qu'il me ferait moins peur qu'un sapiens comme nous qui rentrait dans le studio avec une Kalachnikov,
oui, ça,
je
c'est
le dis
sûr.
Franchement.
Surtout qu'en plus, alors il aurait peut-être été Elisabeth Daines, on va y revenir, le représente dans cette exposition, c'est une plasticienne, un paléoplasticienne, qui le représente à partir de ce qu'on a trouvé, à partir des fouilles archéologiques, à partir de l'ADN. Il est souvent un peu hirsute et il est roux.
Alors, hirsute, c'est une façon de le représenter. Ce n'est pas ça, en fait, on n'en sait strictement rien. C'est parce qu'on a toujours tendance à considérer que la coiffure parfaite est un signe de civilisation. Et donc, comme on lui a longtemps dénié, en tout cas, toute trace de civilisation, par définition, il faut qu'il soit poilu et hirsute.
Il pourrait aussi être rasé,
il pourrait tout à fait être rasé, peut-être recouvert de plumes, peut-être avec des parures corporelles, peut-être pas des tatouages, mais au moins des traces de colorants, des peintures sur peau, des colliers, des bijoux, etc., etc. Donc, le meilleur service à rendre, je pense, à Néandertal, c'est de ne pas le bestialiser d'un côté, mais de ne pas non plus en faire un surhomme au-dessus de nous de l'autre côté. Le meilleur service qu'on puisse lui rendre, c'est de le considérer comme une espèce humaine, comme un homme, avec toutes ses qualités, mais aussi tous ses défauts, et Dieu sait si on en a pas mal.
Et
pour son apparence physique, oui, il semblerait, par rapport une fois de plus à la génétique, en tout cas sur deux individus, un Néandertalien italien et un espagnol, qu'il soit de carnation claire, la peau claire, ce qui s'explique aussi par le fait que c'est une espèce nordique, c'est un homme qui habitait sous des latitudes hautes, et donc on a plutôt intérêt à avoir la peau blanche pour mieux synthétiser les vitamines, et avec des cheveux roux. Mais ce sont sur deux individus, et à une époque relativement récente, entre 40 000 et 60 000.
Il faudrait en trouver d'autres. En tout cas, ce Néandertal-là, il enterrait ses morts.
Oui, tout à fait, il enterrait ses morts. On a une quarantaine de sépultures à ce jour qui ont été découvertes. Malheureusement, beaucoup ont été découvertes assez anciennement, donc c'est parfois difficile d'avoir des traces archéologiques évidentes. Les techniques de fouilles ont beaucoup changé. Mais néanmoins, c'est attesté de manière claire et certaine. C'est effectivement un homme qui enterrait ses morts.
Et c'est un homme qui communiquait avec les autres, qu'il avait un langage, il parlait Néandertal, est-ce qu'on le sait ça?
Alors c'est très difficile, une fois de plus la génétique nous apporte un petit indice, il y a un gène qui a été appelé un peu abusivement le gène de la parole, mais je ne vais pas me lancer dans une explication médicale sur ce sujet, qui montre qu'a priori il avait les capacités à parler, ce n'est pas parce qu'on a la capacité de faire quelque chose qu'on le fait, mais néanmoins il a cette capacité à parler, d'un point de vue strictement culturel, parce que la génétique n'explique que très peu de choses sur le culturel, la complexité de ses rituels, il enterrait ses morts, mais aussi de sa technologie, fait qu'il est difficile d'imaginer qu'il ne puisse pas parler.
Et il parle...
Parlait-il comme nous ? C'est encore une autre idée, une autre chose à arriver à prouver peut-être un jour. La conformation de son larynx, ce qu'on en a comme trace en tout cas, montre que d'un côté il avait également un ossioïde, qui est l'os qui permet l'attache et la mobilité de la langue. C'est utile pour articuler les sons, sinon on ne peut pas y arriver. Mais la conformation du larynx et du pharynx des Néandertaliens, d'après certains collègues, fait qu'il aurait une voix un peu haut perché comme ça.
Court, trapu, avec une voix très haut perché.
Une voix de fossé, oui.
Effectivement, une autre humanité. Alors, une autre humanité, c'est étonnant que l'on découvre donc dans ce musée de la préhistoire, hein, à Nemours, où l'on découvre aussi ces objets du quotidien, où l'on découvre les outils biphases dont ils se servaient. Ils étaient carnivores aussi. Hein,
tout à fait. Effectivement, dans le musée, on peut donc voir plusieurs outils taillés par cet homme de Néandertal. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que au 19e siècle, fin 19e siècle, c'est Victor Comon, un préhistorien, qui va découvrir en région parisienne, pas très loin d'ici, à Levallois-Perret, et mettre en évidence des outils taillés d'une manière très particulière. Hein. Pascal évoquait une technologie, c'est vraiment une technologie très élaborée
de Néandertal.
Typique de Néandertal, qui a été appelée la méthode de taille levallois, en référence à ce site, et tous les sites néandertaliens pratiquement ont pour la plupart ces méthodologies de fabrication d'outils avec, vous le disiez, donc des bifaces qui eux sont un héritage beaucoup plus ancien ces Homo heidelbergensis qui taillaient déjà depuis très longtemps des bifaces, mais avec donc aussi une autre technique de fabrication de supports d'éclats et de pointes qui sont vraiment pour une meilleure efficacité, certainement pour la chasse et la découpe.
Donc un langage, une culture, peut-être des paroles, une technologie, enfin des outils
tout à fait,
très sophistiqués pour Néandertal. Hein.
Et on se rend compte aussi qu'il a souvent recherché des matériaux particuliers pour fabriquer, alors soit utilisant ceux qu'ils ont sur place, hein, mais on a le cas de cristal de roche, de jaspe qui ont été taillés, et ça se demandait si c'est pas aussi l'aspect de la beauté de la pierre en elle-même qui est recherché pour fabriquer
esthétique
hein, également, oui.
Autour de la question, que savons-nous de Néandertal ? Je propose de nous arrêter donc dans cette exposition Néandertal européen au musée de Nemours sur cette reconstitution de l'homme de la chapelle au sein, réalisée par la paléoplasticienne Elisabeth Daines, donc grandeur nature, de quoi impressionner les visiteurs qui se retrouvent, c'est le cas de le dire, nez à nez avec Néandertal. Écoutez leur réaction au micro d'Alice Milo.
Bah, il fait un peu peur parce qu'il est tout poilu.
Je pense qu'il fait peur parce qu'on a l'impression qu'il est réel. Il est vraiment super, super bien fait. Quand on le regarde dans les yeux, on a l'impression qu'il nous regarde. Il est plus petit que nous, beaucoup plus poilu. Sinon, il est quand même... voilà, je le rencontre dans la rue, habillé.
Rasé.
Voilà, c'est un homme comme nous.
Vous pensiez qu'il ressemblait à quoi, cet homme ?
Je le voyais à peu près de cette taille-là et au visage plus beaucoup plus grossier.
Comment ça, plus grossier ?
Avec des traits plus gros, le menton plus en avant,
plus simiesque finalement.
Ouais. Pour moi, c'est vrai qu'un homme préhistorique, c'est un homme qui sait pas parler, qui se déplace en étant voûté.
C'est pour ça que je vous disais que je le voyais un petit peu moins beau quand même, c'est vexant. Non, on l'imagine un peu plus, peut-être déjà un peu plus court, encore un peu plus courbé. Là, il est presque beau pour aller au bal à l'entrée. Vraiment très proche de ce qu'on peut être aujourd'hui, quoi.
Ils ont un peu des cheveux emmêlés.
Mais il a l'air plutôt sympathique, hein, je trouve. Je pense qu'il devait être aussi intelligent que nous. Je crois qu'il était peut-être porteur de valeurs supérieures aux nôtres. C'est peut-être pour ça qu'il a disparu, d'ailleurs.
Pourquoi et comment ont-ils disparu, justement ? Est-ce qu'on en sait un peu plus aujourd'hui ? Est-ce que c'était, est-ce qu'ils auraient eu porteur de plus de valeur que nous, le finalement très 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 gentil Néandertal, nous les méchants Homo sapiens, on les aurait fait disparaître de la Terre ? Ça tient la route ? C'est une hypothèse, Pascal Depape ?
Oui, il y a certains collègues qui pensent que Néandertal avait un côté pacifique, et qu'il a voulu éviter les conflits avec nous-mêmes, les sapiens, et qu'il s'est donc réfugié dans des zones de plus en plus reculées pour finir par y disparaître. c'est peut-être à la fois lui donner trop d'humanité et peut-être pas assez à nous aussi. Je crois qu'il faut essayer de rester dans des positions équilibrées sur tous ces sujets-là.
Qu'est-ce qu'il y a comme autre hypothèse pour cette disparition ?
Des hypothèses, j'en ai dénombré plus d'une quinzaine d'hypothèses différentes qui vont du très scientifique jusqu'au très farfelu. Il y a des hypothèses de type météorite, ça a été publié il y a quelques années, un peu comme les dinosaures, mais 65 millions d'années auparavant. Il y a des tas d'hypothèses diverses et variées. Ce qu'on constate malgré tout, c'est que sur la fin de l'épopée néandertalienne, dans les années 30, 40 000, quelque part par là, on constate qu'on a quand même un nombre de sites un peu en diminution. Avant même qu'une rencontre sapiens, on a l'impression que la densité d'occupation néandertalienne, c'est une poignée d'individus pour la France, hein, c'est quelques milliers d'individus, il faut bien se mettre ça en tête. Hein. Mais la densité semble être un peu en chute. Donc c'est peut-être déjà une population qui est sur un déclin naturel, premièrement.
Parce qu'elle aurait été aussi dans cette impasse qui était l'Europe à l'époque.
C'est pas forcément évolutif, hein, c'est peut-être simplement parce qu'il y a, dans les années 30-40 000, toute une succession d'événements climatiques qui aboutissent sur très peu de temps, finalement, à de très grandes disparités du climat. Et donc des conséquences sur la flore et donc sur la faune et donc sur l'alimentation d'un néandertalien.
Plus en plus difficile de s'adapter pour
néandertaliens. C'est peut-être assez compliqué. C'est une époque extrêmement troublée au niveau climatique. Sur 10 000 ans, il y a des successions, des événements plutôt entre guillemets chauds qu'on appelle les événements de Dansgaard-Heusder, qui font que la température remonte brusquement. Si la température remonte brusquement, le niveau des mers remonte brusquement, la flore est impactée, la faune en subit les conséquences, les néandertaliens aussi. Et puis peu de temps après, sur quelques dizaines d'années, la température chute considérablement. Et là, c'est un cycle inverse, mais c'est également un cycle. Ça peut conduire à un éclatement des populations, un éclatement des groupes culturels, avec moins de diversité génétique entre ces groupes culturels. On constate vers la fin des néandertaliens plusieurs sous-cultures, entre guillemets, néandertaliennes, qui semblent être... qui semblent
d'après
vivre
les
en
objets
parallèle.
Que vous
d'après
avez
les objets,
découvert.
D'après les objets, tout à fait. Et à ce moment-là, il semble déjà être une population sur le déclin. Arrivent les Homo sapiens, nous-mêmes, avec une technologie différente, dont on est incapable vraiment de prouver. Moi, je ne me lancerai pas là-dedans qu'elle était supérieure ou pas. Là n'est pas la question. Mais en tout cas, peut-être avec un mode de vie différent, on constate que autant Néandertal était un grand carnivore, ce qui ne l'empêchait pas de temps en temps de grignoter une plante par-ci par-là, on a aussi des traces de cela, autant sapiens a un régime plus omnivore, plus varié, avec peut-être une composition des groupes de chasse, en tout cas de quête de nourriture différents. Peut-être que seules quelques personnes chassaient chez Néandertal, alors que Sapiens, tout le monde mettait la main à la pâte, si je puis me permettre l'expression.
Plus de réseaux sociaux,
et,
peut-être.
Et donc, quand des espèces qui sont au sommet de la chaîne trophique, la chaîne alimentaire, sont en concurrence, il suffit de pas grand-chose pour qu'une des deux prenne l'ascendant sur la deuxième.
Mais en même temps, on comprend aussi pourquoi Néandertal nous touche à ce point-là aujourd'hui, de cette manière-là. Le fait qu'il ait disparu, le fait qu'il y ait eu plusieurs espèces humaines en même temps sur Terre, et qu'une ait pu disparaître, et qu'une autre ait pu s'adapter, je pense que ça nous touche aussi particulièrement aujourd'hui.
Ben oui, tout à fait. On est en fait une seule et unique espèce à l'heure actuelle.
Il faut le rappeler, hein, sur Terre.
Il faut le rappeler,
hein,
tout à fait,
une espèce,
c'est important. Et que là, en fin de compte, il faut pas oublier que à côté de Néandertal, on a certainement aussi, on évoque l'homme de Denisova, une autre espèce encore différente.
Une autre espèce, en même temps que Néandertal, donc l'homme de Denisova qu'on a trouvé en Géorgie.
Qu'on a trouvé plus au nord, en Altaï, où en fait, c'est uniquement grâce justement à les analyses ADN, qu'on a une autre espèce différente qui est présente, qui elle aussi va disparaître.
À la même époque, sur Terre, il y aurait eu au minimum quoi, 4 espèces en même temps, on peut le dire comme ça, Néandertal, Denisova, le petit
sapiens,
homme de Flores.
Flores également.
Et Sapiens.
Oui.
Et 2-3 vont disparaître. Aujourd'hui, il n'y a plus que Sapiens.
Pour qu'aujourd'hui, effectivement, il n'y ait plus que Sapiens, oui.
Donc ça fait écho ça aujourd'hui quand même. Est-ce qu'on pourrait en découvrir encore d'autres, des espèces? Vous pensez que c'est possible?
Des espèces vivantes, j'en doute beaucoup. Nous avons colonisé quasiment toute la Terre, à
nous,
peu de
sapiens,
près, donc,
hein,
nous sapiens.
Quelque couleur que l'on soit, d'où qu'on soit sur la Terre, nous les sapiens.
Il y a un seul sapiens et puis c'est tout. Il n'y a pas de discussion au-delà de ça. Il y a un seul sapiens terminé. On peut avoir des apparences différentes, mais qui sont jamais que des caractères, soit hérités, soit d'adaptation à un endroit précis. Mais c'est un seul sapiens, et puis c'est tout. Il n'y a pas de différence entre eux et nous. Enfin, entre les gens qui habitent sur les 5 continents actuellement, on est exactement tous les mêmes. On a le même codage. Bon, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Il y a eu, hein, certainement, oui, 4, entre guillemets, humanités en parallèle. Si ce n'est que l'homme de Flores, il y a encore pas mal de discussions à son sujet. Mais néanmoins, ces 4 humains différents ont coexisté, pas forcément cohabité, mais au moins coexisté, avec quand même quelques traces de cohabitation, parce que Denisova, on en retrouve une part génétique chez les habitants du sud-est asiatique actuellement, également. Et parfois jusqu'à 8 à 10%.
Donc ils ont voyagé en plus, ils se sont déplacés.
Denisova, c'est-à-dire que l'aire de répartition des Néandertaliens, c'est l'Europe jusqu'à l'Altaï. L'Altaï, c'est une chaîne de montagnes en Sibérie du Sud. Et Denisova, c'est en Altaï également. Et Denisova semble plutôt être plus vers l'est, et Néandertalien plus vers l'ouest. Et on retrouve des gènes denisoviens en Papouasie-Nouvelle-Guinée, etc.
Autour de la question, que savons-nous de toutes ces espèces humaines? Que savons-nous de Néandertal? On écoute Moussé Hakim sur RFI.
Des charbons à faire des traits au mur pour compter les saisons, remercier la nature. On croyait tous pareils aux deux tuffes, des reines, des ours et du ciel, des rivières et des chênes. Pas de temple à bâtir, personne à convertir. Néandertal, si tu voyais vieux locataire, dans quel état la planète Terre? Néandertal, cousin lointain, vieux solitaire. L'heure est fatale car tous nos mots sont planétaires.
Néandertal, cousin lointain, vieux solitaire. Elle vous plaît cette version de Moussé Hakim, Jean-Luc Rieux?
Ah oui, j'aime beaucoup. Surtout qu'en plus, elle nous amène aussi dans cette interrogation d'un mythe assez rousseauiste, hein, de l'homme de Néandertal, hein, ce bon sauvage un petit peu aussi qu'on essaie de lui donner aujourd'hui. Je pense qu'effectivement, comme le disait Pascal, il faut nuancer tout ça, mais qu'effectivement, on a tendance, malheureusement aujourd'hui, on voit que l'homo sapiens actuel peut mener à sa destruction, à sa disparition. Néandertal a disparu, et il est peut-être effectivement à mettre ces éléments-là en parallèle.
Miroir de nous-mêmes, hein, finalement, Néandertal, autour de la question, que savons-nous de Néandertal? Nous sommes en compagnie de l'archéologue Pascal Depape, et donc du directeur et donc de Jean-Luc Rieux, excusez-moi, du musée de la préhistoire d'Île-de-France, où est présentée donc l'exposition Néandertal l'Européen, avec tout de suite une nouvelle question pour vous messieurs, c'est celle du géographe Christian Grattalou.
Le problème, c'est est-il seulement en Europe? La carte du Néandertal est une carte qui, effectivement, est au nord de la Méditerranée, à l'est de l'Atlantique, enfin bref, ce qu'on appellera plus tard l'Europe. Est-ce une invention européenne? Est-ce quelque chose qui est propre à l'Europe? Ou est-ce la géographie de la préhistoire, c'est-à-dire des préhistoriens? On les a découverts que là où on a cherché, c'est-à-dire en Europe.
Votre réponse, est-ce que Néandertal est seulement en Europe? Et jusqu'où d'ailleurs? Jusqu'où pourrait-on le trouver ou le chercher, Pascal Depape?
C'est une question intéressante. Dans l'état actuel de nos connaissances, Néandertal, c'est son rayon d'action, c'est l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, comme disait De Gaulle, un peu de choses près.
L'Europe, l'Eurasie.
Disons l'Eurasie, ça va plus ou moins jusqu'à l'Oural, ça dépend un peu des géographes, mais on a des traces de Néandertaliens jusque dans l'Altaï. Ce sont les plus à l'est qu'on ait à ce jour. À ce jour, peut-être qu'on va en retrouver dans la banlieue de Pékin dans un an, ou dans 10 ans, ou dans 20 ans. C'est l'intérêt du métier que nous pratiquons, Jean-Luc et moi, c'est qu'il se passe toujours de nouvelles choses. Et
on se couche
tous les soirs en se disant, mon Dieu, que va-t-il nous tomber dessus demain matin comme nouvelle découverte qui va devoir rebalayer complètement toutes nos connaissances sur le sujet et tout réapprendre à zéro. On fait un métier où on apprend tout le temps, et c'est ça qui est fabuleux pour nous. Enfin, en tout cas, c'est pour
et
ça qu'on le fait.
Et on ne peut s'accrocher à rien, mais en même temps, vous faites un métier étonnant, parce qu'au fond, on dit, il y en a en Europe, vous dites jusqu'à la tête, parce qu'on les a trouvés que jusque-là.
Voilà.
Il faut les chercher pour les trouver, il faut les trouver.
Il y a quand même pas mal de fouilles qui se font, qui se font en Chine actuellement et dans d'autres coins de la planète.
En Chine, ils fouillent aussi beaucoup pour essayer de trouver.
Nos collègues chinois fouillent énormément. Il y a eu des fouilles anciennes, des fouilles récentes, donc il y a pas mal de découvertes qui se font. Il n'y en a pas encore assez par rapport à l'immensité du territoire chinois et de la Sibérie aussi, la Sibérie russe. Mais il y a quand même un certain nombre de découvertes qui se font et à ce jour, Néandertal s'arrête quelque part en Altaï, et on pense que le foyer néandertalien, c'est quand même plutôt l'Europe et plutôt l'Europe de l'Ouest, avec des incursions ou des excursions, ça dépend comment on voit les choses, vers le centre de l'Europe et vers l'Asie, en période de réchauffement climatique peut-être. On pense que c'est ça. Vers le nord, il y a un indice en Finlande qui est discuté. À titre personnel, j'y crois assez peu. J'ai été il y a 2 ans pour voir moi-même le mobilier archéologique. Bon, ça se discute sur des querelles de spécialistes. Moi, je ne crois pas que ce soit du silex taillé, au sens où nous, on l'entend, en tout cas.
Parce qu'en fait, il faut que vous trouviez un outil qui corresponde à ce qu'on a trouvé ailleurs.
L'idéal, c'est de trouver des outils, mais l'outil, c'est du culturel, et le culturel, ce n'est pas du biologique. On peut être du sapiens et utiliser du Levallois. Le Valois est une méthode de taille fortement utilisée par les Néandertaliens, mais que des sapiens ont pu utiliser également. Au Proche-Orient, par exemple, on a des squelettes sapiens enterrés avec un débitage levallois. Si on n'a pas le squelette sapiens avec, on dirait, mon Dieu, c'est une trace de Néandertalien. C'est pas si simple que ça. Rien n'est simple, malheureusement, dans ce métier.
Et est-ce que vous pensez, justement, qu'il peut y avoir d'autres révolutions, comme celles fournies par la génétique, notamment, sur ces métissages entre sapiens et Néandertal, d'autres révolutions, comme la découverte de cet homme de Denisova, il y a quelques années, donc encore une autre espèce humaine, Jean-Luc?
On peut, effectivement... Et on peut l'espérer d'ailleurs qu'on ait des données récentes et des découvertes, mais aussi le fait de pouvoir rechercher des traces ADN plus anciennes, par exemple, nous donnerait justement des lignées aussi peut-être assez qui poseraient question.
Et cet ADN ancien, il se conserve?
Alors le problème, c'est qu'effectivement, plus on va aller loin dans le temps, et plus il est difficile de retrouver de l'ADN bien conservé. Et c'est malheureusement les contraintes actuelles. Autre, je pense, et ça, jusqu'à maintenant, l'art préhistorique aussi est le propre d'Homo sapiens. Mais un jour, et moi je suis prêt à l'accepter, on aura des preuves d'art et de dessin réalisés par Néandertal.
Il y a une découverte d'un coquillage.
Alors le coquillage est en fait beaucoup plus ancien. Hein. C'est des traces de chevrons sur un coquillage à plus de 500 000 ans, dans mon souvenir, qui vient d'Asie. La preuve vraiment... laissé par Néandertal, c'est à Gibraltar, hein, des gravures sur une roche où là, la couche archéologique était en contact avec, et cette couche archéologique est datée de l'époque de Néandertal. Et donc, ces chevrons gravés sur la roche sont de la main de Néandertal.
Donc, un art pari... Enfin, c'est un art, mais en tout cas...
Voilà, c'est des traces... qui sont au-delà de simples gestes techniques de découpe. Bon, il n'y a rien de figuratif, mais pourquoi pas imaginer d'avoir une découverte. Là encore, ça sera les méthodes de datation et d'analyse des peintures ou des gravures qui permettra d'apporter des éléments.
Pascal Depape, vous qui passez votre vie d'archéologue, j'ai envie de dire en compagnie Néandertal, comment vous le définiriez? On a dit une autre forme d'humanité avec probablement un langage, une culture. Comment vous le définiriez?
Un être humain avec nos défauts et nos qualités, tout ce qui fait de nous des hommes et des femmes.
Ouais.
Je crois que c'est le meilleur service qu'on puisse lui rendre, comme je le disais tout à l'heure. Il a disparu sans disparaître, vu qu'on en a un petit peu en nous. Il est toujours là, un petit peu, quelque part, autour de nous, avec nous, dans nous. Le définir, c'est un succès de la lignée humaine. Il a quand même vécu pendant 300 000 ans.
C'est pas mal. Hein.
C'est donc, pour le moment, entre pas loin de 100 000 ans de plus que nous, quand même encore. Donc, on a encore un petit peu de marge en ce qui nous concerne. On verra bien dans 100 000 ans si on peut lui rendre des points ou pas. On verra ça à ce moment-là. Donc, un homme à part entière, qui est resté pendant 300 000 ans en subsistant sur la planète avec sa technologie, sa culture qu'on essaye d'approcher, de reconstituer. Et j'invite tous ceux qui le peuvent à aller voir cette belle exposition du Musée de
Mémoire. Justement, Jean-Luc Rieux, vous, en ayant monté cette exposition et vu de près tous ces outils et tous ceux avec quoi ils vivaient, Néandertal, vous le définiriez comment ?
Effectivement, on espère, nous, ce qui serait intéressant, c'est de trouver des traces d'habitat structurés. Malheureusement, jusqu'à présent, on a très peu d'indices. Une découverte du côté de Poitiers d'un possible aménagement de cabane. C'est-à-dire qu'on structure son espace. Le foyer, on maîtrise le feu depuis longtemps. L'homme de Natal avait les techniques et utilisait le feu sans problème.
Mais on ne sait pas comment il vivait.
Et voilà, ce serait intéressant d'avoir un peu de vie sociale donnée par les données archéologiques.
De Néandertal. Merci infiniment à tous les deux d'être venus en direct dans notre studio nous faire partager un peu de Néandertal. Je rappelle que l'exposition donc Néandertal européen, c'est à voir au Musée de la Préhistoire d'Île-de-France. C'est à Nemours jusqu'au 8 novembre 2015, juste pour le plaisir et le choc aussi dans la reconstitution en grandeur nature de Néandertal par Elisabeth Daigne. Ça vaut vraiment le détour. Et puis je signale aussi que vous avez publié, Pascal Depape, aux éditions La Découverte, La France du Paléolithique. Merci à tous les deux.
Merci.
Autour de la question sur internet, www.rfi.fr.
Demain, retour vers notre futur à nous, Homo sapiens, autour de la question quels sont les enjeux du numérique pour l'humain. Nous inaugurons à notre manière la nouvelle chaire numérique du Collège des Bernardins, en entamant la réflexion pour un humanisme numérique avec Charles Pélabon à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. D'ici là, amis auditeurs, portez-vous bien, restez curieux et surtout gardez l'esprit libre et ouvert. Merci de votre fidélité, merci de votre interactivité. Dans quelques instants, 30 secondes, un nouveau journal sur RFI.